était religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 27 mars 90.
Question, ne peut-il pas y avoir une vertu de vérité pour lutter contre l'orgueil, en tant qu'il est un manque de vérité pratique? Oui, mais formellement, l'orgueil n'est pas un manque de vérité pratique. Formellement, l'orgueil, c'est l'exaltation de notre propre jugement qui ne tempère pas, qui n'accepte pas d'autres jugements. Donc c'est l'exaltation de l'intelligence. Une exaltation d'un amour trop grand de nous-mêmes. Et de ne pas accepter qu'il y ait quelque chose d'autre que nous qui mesure notre propre jugement. Et une sincérité poussée à l'extrême. La sincérité poussée à l'extrême touche l'orgueil. Très vite. Vous voyez, au point de vue psychologique. Vous n'acceptez pas que quelque chose mesure votre intelligence. Que la réalité mesure votre intelligence. La réalité, c'est peut-être le prochain, vous comprenez. C'est peut-être celui qui est à côté de vous. Vous n'acceptez pas qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui puisse dire quelque chose de plus intelligent que vous. Ça peut arriver, ça. Alors, l'humilité consiste à accepter qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui est plus intelligent que vous. Et vous reconnaissez cela. Donc vous le laissez passer devant. Donc vous voyez, contre l'orgueil, c'est bien l'humilité. La vérité n'est pas première. L'orgueil n'est pas une recherche de vérité. Ou une fausse recherche de vérité. La condition pour qu'il y ait l'orgueil, il y a toujours une erreur, ça c'est sûr. Tout orgueilleux est dans une erreur pratique. Mais l'orgueil n'est pas l'erreur pratique, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vertu, de vérité dans l'ordre pratique. Il y a une vérité dans l'ordre pratique qui est l'ordre de la prudence. La prudence nous donne une vérité pratique. C'est la prudence, qui est une vertu intellectuelle. Oui. Alors c'est vrai que l'humilité implique la prudence. Nous le verrons après ça. Nous l'avons déjà vu en éthique fondamentalement humaine, que la vertu de prudence existe comme vertu cardinale. Dans l'humilité. Je ne peux pas faire un acte d'humilité sans faire un acte de prudence, donc de vérité pratique. Alors, on m'a posé une question tout à l'heure, et je crois qu'elle intéresse tout le monde. Je vous avais dit que l'humilité n'était vertu qu'au niveau éthique religieuse. Je crois qu'au niveau éthique fondamentalement humaine, c'est-à-dire une éthique tournée vers l'amour d'amitié, finalisée par l'amour d'amitié, ne peut pas découvrir l'humilité comme vertu, mais seulement comme disposition. Alors la question posée, qu'entendez-vous exactement par humilité, disposition, et humilité, vertu? Est-ce que parmi vous, il y en a un qui peut répondre? Ou une, hein, qui peut répondre à cette question? C'est important, parce que je dis la même chose pour l'obéissance. Vous voyez? Découvrons l'acte d'humilité. Je peux poser des actes d'humilité par rapport à l'amour d'amitié. Parce que je respecte le respect à l'égard de l'ami. Et je le salue, je le laisse passer devant. J'incline mon jugement à l'égard du sien. Donc, il peut y avoir des actes d'humilité par rapport à un ami. Ces actes d'humilité vont engendrer une disposition, pas plus. Alors, toute la différence entre la disposition et l'habitus, distinction bien connue au niveau des prédicaments. Alors, je vous ai dit qu'en première année de philosophie, vous devez regarder les prédicaments d'Aristote. Donc, vous devez bien connaître cette distinction. Disposition et habitus. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. N'est-ce pas ? Parce que c'est une distinction capitale, ça. La disposition, saint Thomas nous dit, qu'elle se prend ex parte materiae. Une disposition n'atteint pas un nouveau principe. Ex parte materiae. Les dispositions sont mobiles, ça change. Les vices sont des dispositions. Subjectives, ex parte materiae, c'est-à-dire toujours du côté du sujet. L'homme. L'homme en tant qu'il est sujet des opérations. Vous voyez, l'acte d'humilité que je fais à l'égard d'un ami, c'est un acte de respect, en réalité. Je respecte ce qu'il est, parce que je l'aime. Et je le laisse passer devant. Voyons, on dira ça constamment. « Oh, mais ne parlons plus de centre. Non, non, dépassons ça, tant pis. J'ai cette opinion, tu as la tienne, puis très bien, dépassons ça. » Dans l'amitié, ça arrive constamment. On ne veut pas rester éternellement devant son opinion. On respecte l'opinion de l'ami. C'est peut-être vrai, tu as raison, tu as peut-être vrai. Oui. Alors on respecte. Entre amis, c'est comme ça. Quand on n'est pas assez amis, on discute, on veut avoir raison. Vous voyez bien, en récréation, les discussions. On veut avoir raison. On veut maintenir. J'ai travaillé ça, je te dis que c'est ça. Puis l'autre dit, mais non, quoi. Ben, j'ai travaillé autrement. Puis si tu dis ça, parce que tu es... c'est saint Thomas qui dit ça. Mais saint Thomas, il dit pas toujours des choses vraies. Donc, je passe à l'autre. N'est-ce pas? Et puis, il regarde les autres. Les modernes disent ça. Ils ont peut-être raison sur ce point. Oui. Et là, entre amis, on dit non, discutons pas. On n'est pas assez calés pour discuter là-dessus. On verra ça plus tard. Mais on remet. Parce qu'on ne veut pas discuter. La discussion risque toujours de s'envenimer. Et alors à ce moment-là, je ne dis pas qu'on s'injurie, mais presque, on dit espèce d'imbécile, oui, ça revient très vite, ça, vous savez. Le vieil homme revient très vite dans les discussions. Et le vieil homme revenant, on se traite très vite d'imbécile. Tu n'y comprends rien. Oui. Alors, l'amitié est blessée. On va la dépasser. Donc il y a des actes d'humilité, ça je suis sûr. Des actes d'humilité entre amis. Mais ces actes d'humilité n'atteignent pas l'habitus. Ah, alors, l'habitus touche un principe propre. C'est pour ça que l'habitus est stable. Et c'est pour ça que la vertu est un habitus. Est un habitus, c'est quelque chose de stable, enraciné où ? Dans le concupiscible, ou l'irascible, ou l'intelligence pratique, ou la volonté. s'enracine dans le concupiscible, la tempérance. Pendant le carême, tempérance, petit déjeuner rapide, on lape l'eau, c'est le café, ça n'a pas d'importance, ou le lait. Oui, tempérance, on ne s'arrête pas, on ne fait qu'un repas. En dessous de 21 ans, ou de 20 ans, le père me dit, attention, ne jeûnez pas trop, mais la communauté jeûne. Si on est un peu souffrant, un peu fatigué, quatrième semaine de carême, on n'en peut plus. Suivre trois cours le matin, ayant l'estomac complètement vide, on ne pense qu'à manger. Et la métaphysique est un petit peu difficile. Donc, on vous dira, non, prenez votre repas pour votre devoir d'état quand même. Très possible. Vous voyez, la tempérance vient ennoblir le concupiscible, le rendre rationnel. Pas commode que le concupiscible soit rationnel. Ça, c'est la vertu de tempérance. La vertu de tempérance ennoblit. Alors, la vertu de tempérance existe au niveau de l'amour d'amitié. Pour être l'ami de quelqu'un, il faut la vertu de tempérance. Autrement, on aimera mieux le miel que son ami. Aujourd'hui, il y a du miel, vite, l'ami passe derrière. Vous voyez, la vertu de tempérance fait que l'ami passe devant le miel. Je prends cet exemple-là, vous comprenez tout ce que ça veut dire, hein, voyez bien. Parce que l'ami est une finalité. S'il est une finalité, il est un bien spirituel. S'il est un bien spirituel, je peux très bien ordonner le concupiscible à ce bien spirituel. Je prends l'amitié au sens fort, hein. Pas l'amitié de jouissance, pas l'amitié d'utilité. Ça n'implique pas les vertus. Le voleur peut aimer le voleur parce que il a une main habile, il a des biceps. Parce qu'entre deux voleurs, où il y a une amitié, l'un est astucieux, l'autre est fort. Alors l'astucieux a besoin du fort. Vous voyez, on a besoin l'un de l'autre. Le besoin se prend ex parte materiae. Du côté du sujet, l'un est astucieux, l'autre est fort, il y a des biceps. Ils ont besoin de s'allier, mais c'est une coopération ex parte materiae, pas du tout du côté de la finalité. Donc c'est des dispositions, pas plus. C'est pour ça que l'amitié qui est uniquement du côté utile ne finalise rien. L'amitié de jouissance ne finalise rien, parce que la jouissance reste un niveau d'un bien sensible inférieur à l'homme. Donc ce n'est pas une finalité. Tandis que l'amitié honnête finalise vraiment l'homme dans ce qu'il a de spirituel. Et à ce moment-là, en vue de cette amitié, j'acquiers la vertu de tempérance. J'acquiers la vertu de force. La vertu de force est dans l'irascible. Quand je ne suis pas assez fort, je me mets tout de suite en colère parce que c'est en opposition avec ce que j'avais prévu. Il y a quelque chose qui arrête ce que j'avais prévu. Alors je me mets en colère. Alors la colère, quand elle n'est pas dominée par le point de vue de la force, peut très bien briser, arrêter l'élan de l'amitié. La prudence est reçue dans l'intellect pratique et la justice est reçue dans la volonté. Donc vous avez les constater, parce qu'il n'y a pas d'amour d'amitié. Vous voyez ? Il n'y a pas d'amour d'amitié, puisque c'est la praxis. C'est toujours ça qu'il faut vis-à-vis d'un marxiste, quand vous êtes en face d'un marxiste. Hein, je vous l'ai déjà dit, il y a un petit truc très simple. Quand vous êtes en face d'un marxiste, commencez à discuter. Dès que vous pouvez, vous lui demandez s'il est marié, s'il est père de famille. S'il est marié, vous lui demandez s'il aime son épouse. Il vous dira oui. S'il aime ses enfants, il dira oui. Et alors la praxis, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre amour de votre épouse? Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre amour de vos enfants? Il vous dira rien. Ah, dit alors. C'est donc pas une philosophie. Attaquer le marxisme du côté de l'amour. Et l'amour le plus simple, une philosophie qui n'explique pas l'amour de l'époux et de l'épouse, qui n'explique pas l'amour du père vis-à-vis de ses enfants, est une fausse philosophie. Puisque c'est élémentaire. Une philosophie qui n'explique pas l'amour d'amitié est une fausse philosophie. Platon n'explique pas l'amour d'amitié. Il y a là un trou qui est terrible. Mais c'est très important, ça. C'est très important de bien voir et de bien situer les lacunes d'une philosophie. Oui. Il n'y a pas une métaphysique de l'amour d'amitié, mais il y a une éthique de l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié fonde l'éthique. Et donc, l'amour d'amitié va expliquer pourquoi tempérance, pourquoi force, pourquoi prudence, pourquoi justice. Les quatre vertus cardinales, qui sont des vertus, des habitus, parce que elles sont finalisées, elles sont ordonnées à permettre à l'homme d'aimer. Si vous aimez trop la confiture, vous n'arriverez plus à aimer une personne humaine. Si vous êtes trop faible, aucune force, mais vous n'arriverez plus à aimer vraiment. Et la même chose pour la tempérance. Alors, est-ce que l'humilité peut passer de la disposition à l'habitus par rapport à l'amour d'amitié? Ça, c'est une très belle question. Hein. Ce sera très beau de voir, ça. Pas commode. Hein. L'ami, vous le respectez. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous trouvez dans l'amour d'amitié, au point de vue purement humain, quelque chose de suffisamment radical dans ses perfections, dans ses qualités, pour fonder une vertu d'humilité, pas seulement une disposition. La disposition, elle est commandée par le respect. Je respecte que tu as telle qualité que moi je ne sais pas. Je respecte ça. Là-dessus, ne discutons pas, c'est pas la peine. Mais il y a le respect. Et ce respect, il touche la justice. Je te respecte dans tes droits. Je te respecte dans ta manière d'exister, dans ton style de vie. Pas plus. Le respect qui regarde le point de vue des dispositions. Pour que ça devienne vertu, il faut que ça touche une finalité. Or, la finalité de l'amour d'amitié n'implique pas que, à l'égard de l'ami, je pose un acte d'humilité telle sent qu'il y a en lui un certain absolu. Philosophie moderne, je ne crois pas que Lévinas Est-ce que la modestie peut être une vertu sans l'humilité? Non, c'est disposition, c'est le respect, c'est les qualités d'autres. Laisser passer l'autre devant en raison de ses qualités, c'est pas une finalité, c'est une disposition. On est bien élevé. Oui. Alors, la modestie ne peut pas se séparer. La modestie est vertu en fonction de l'humilité. Et pas par elle-même. Oui. Il y a toutes les vertus annexes qui sont secondes, mais qui s'appuient sur la principale, l'humilité. Et je ne crois pas, il faut y réfléchir, c'est intéressant, putain, un problème que vous pouvez tous, c'est votre sens moral que vous devez aiguiser pour comprendre ce que c'est qu'une vertu. Et vous comprenez parfaitement une vertu quand vous distinguez disposition et habitus. L'habitus divide chez les mobilise. C'est quelque chose, quand on a acquis l'habitus, c'est stable, parce que ça repose sur la finalité. Tandis que la disposition, c'est les humeurs. C'est les humeurs. Vous êtes de mauvaise humeur ce matin. Vous avez mal dormi. Puis tant gris. Mauvaise humeur. Ça ne va pas. Parce que c'est la disposition, ça. Alors si la vertu ne dépasse pas la disposition, toutes vos vertus seront de mauvaise humeur aujourd'hui. Tandis que si vous êtes vertueux, vous faites un effort et vous dépassez ces dispositions. Et vous arrivez à faire un acte d'adoration, même si vous êtes de mauvaise humeur. Évidemment, vous n'arriverez pas à être amicabilis parce que vous êtes de mauvaise humeur. Mais ça, c'est pas une vertu. Vis-à-vis d'amis, vous respecterez. Voyez. Bon, alors, je vais cette ce raisonnement-là pour l'humilité. Faisons le même raisonnement pour l'obéissance. Puisque la question est posée par rapport à l'obéissance. Est-ce que dans une éthique fondamentalement humaine, finalisée par l'amour d'amitié, est-ce que l'obéissance existe? Est-ce que cette obéissance peut être vertu? Il y a des actes d'obéissance, c'est bien évident. Il peut y avoir dans une éthique fondamentalement humaine, l'aspect politique. Il y a une politique humaine et il y a une politique religieuse. Il y a une politique de l'homme dans leur amitié. Il y a une politique qui respecte l'homme religieux. Or, au plan politique, on a tout de suite le point de vue familial, la famille. Dans la famille, il y a l'autorité du père. L'autorité du père repose sur quoi? Dans une politique fondamentalement humaine et non religieuse. Vous voyez, c'est des problèmes extrêmement importants pour nous aujourd'hui. Comme Saint-Pierre dit, on vit une laïcisation. Bon, alors, que représente une éthique laïque? Sur quoi repose une éthique laïque? Elle doit reposer sur l'amour d'amitié. Si elle ne repose pas sur un amour d'amitié, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'éthique. Et c'est uniquement un aspect d'équilibre psychologique. Évitons l'anarchie. évitons, mais on évite. Et si on vivait en commun? Et s'il n'y a pas d'amour, d'amitié, est-ce qu'on peut vivre en commun? Non, impossible. D'où le divorce. Et le divorce est permis en éthique laïque. Du moins, en une éthique qui n'est plus humaine. Parce qu'une éthique laïque descendra très vite infra-humain. Et donc, il ne sera plus une éthique. C'est ce qui se passe. Le libéralisme poussé à l'extrême fait que c'est une éthique qui n'est plus humaine. Mais quand on vous donne ce raisonnement, qu'on dit il y a des communautés vouées au démon, et qu'on vous répond, mais après tout, le démon peut avoir son culte et sa religion, est-ce que ça reste encore humain? Non. Puisque qui dit démon dit adversaire. Celui qui plaide le faux et qui conduit au mal. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et le libéralisme poussé à l'extrême l'accepte. Le libéralisme poussé à l'extrême accepte le divorce, donc n'accepte plus l'amour d'amitié. Puisque l'amour d'amitié réclame la fidélité. Donc le mariage est fondé humainement sur l'amour d'amitié. Dans le mariage est impliquée la fécondité, est impliquée par le fait même l'autorité du père et de la mère. L'autorité du père et de la mère est donc fondée sur la procréation. Procréation humaine. Et le père et la mère sont responsables de l'éducation de leur enfant pour en faire des hommes. Des hommes capables de s'orienter, capables de vivre humainement. Et les enfants doivent obéir. Est-ce que les actes d'obéissance des enfants doivent conduire à l'acquisition d'une vertu d'obéissance ou simplement une disposition. Tant que je suis sous la tutelle de mes parents, j'obéis parce que je ne peux pas faire autrement. Il n'y aurait plus d'argent. Je ne pourrais plus vivre. Ils me couperaient les vivres. Donc j'obéis. Mais dès que je ne suis plus sous la tutelle de mes parents, plus de question d'autorité. Vous voyez, la question est là. Si je dis l'obéissance de l'enfant est uniquement quand il est sous la tutelle de ses parents, j'acquiers une disposition mais pas une vertu. La vertu est au-delà de la question du temps. Devient une condition, mais n'intervient pas et ne détermine pas. Je crois que ça, c'est assez facile à comprendre. Le temps n'est pas du côté de la finalité. Le temps est du côté des dispositions, ex parte matérielle. Vois-tu ce que je veux dire? L'enfant obéit parce qu'il ne peut pas faire autrement. Est-ce que c'est un motif vertueux? C'est un motif de coercition. C'est pas un motif vertueux. Donc, les enfants n'acquièrent pas une vertu, une simple disposition. Dans cette perspective-là, l'obéissance à l'État, c'est la même chose. Payer ses impôts. Ne vous faites pas prendre. C'est tout. Attention au fisc. Vous n'acquérir pas du tout une vertu d'obéissance à l'égard du gouvernement. Disposition. Soyez habile. semble bien la même chose, l'autorité du maître. On est bien obligé, il y a des examens, on fait attention. L'obéissance reste très limitée pour un temps. C'est l'obéissance de contrat. Le temps qu'il faut. Donc je suis dans l'ordre des dispositions. Je crois là aussi qu'en éthique purement, fondamentalement humaine, l'obéissance reste au niveau disposition. Pour le bon ordre, qu'il n'y ait pas d'anarchie, qu'il n'y ait pas de bataille. Tout ça, c'est très très important, parce que ça montre comment, quand l'éthique n'est plus religieuse, combien elle est limitée. Et que ce n'est qu'une éthique religieuse qui permet d'être pleinement humaine. L'éthique n'est pleinement humaine que grâce à l'éthique religieuse. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Alors, si vous n'êtes pas des spécialistes d'humilité, vous êtes des spécialistes de l'obéissance. Donc vous savez très très bien ce que c'est que l'obéissance. Parfaitement. Il n'y a qu'à réfléchir. Combien d'actes d'obéissance faites-vous par jour? Et de la conscience. puissance est fait machinalement. Je me suis levé. Oh, c'était pas drôle. J'étais à l'oraison. Oh, j'ai continué à dormir. J'ai l'arrestation de l'ose. Ça continue aussi. On doit se tenir debout. On doit faire attention de ne pas tomber. Donc, à ce moment-là, on est bien obligé de se réveiller. Mais on a des distractions. J'ai laissé ça. Ça passe plus vite. Le cours. On attend le petit déjeuner. Et puis, donc, et puis ça continue toute la journée comme ça. Vous faites des actes d'obéissance. On obéit à un règlement. On se laisse porter. La machine est remontée. On se laisse porter. Donc vous faites des actes d'obéissance à un niveau de disposition. Autrement, je serais obligé de rompre. Et on dira, n'êtes plus au noviciat. Il y a des quantités d'actes d'obéissance que nous faisons qui restent à un niveau de disposition. Et donc on n'acquiert pas la vertu. Ou tu es un peu plus dessus. Au bout de 6 mois, ça va à peu près, il y a un peu d'huile, ça va. Vierge sage, quand t'es de l'huile un peu, hein, en surabondance. Donc ça va un peu mieux, c'est un peu plus facile qu'au début. Disposition. Est-ce qu'il y a une vertu d'obéissance qui a poussé? Ce passage de la disposition à la vertu, c'est capital, hein, au point de vue éducation. Capital, parce que dans la disposition, si vous n'êtes plus dans le contexte dans lequel vous avez acquis les dispositions, vous serez perdu. Parce qu'il n'y a pas de vertu. Il n'y a qu'une disposition. La disposition est dépendante du milieu dans lequel on est. La vertu est indépendante du milieu. Est dépendant du milieu, puisque le milieu me conditionne. Donc un autre milieu fait qu'il y a d'autres conditionnements. Ça explique des quantités de choses. Hein. Quand je passe d'un milieu à un autre milieu, les Bretons sont vertueux en Bretagne. Dès qu'ils viennent à Paris, ils ne le sont plus. Comme tout le monde sait, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés par leur milieu. Et dès qu'ils arrivent à Paris, ben, ils sont plus conditionnés. Ils conseillent par un autre milieu, comme le milieu n'est pas précisément le milieu de la Bretagne et un milieu chrétien. Tout disparaît. Tout disparaît. Vous voyez, c'est quand même très intéressant, ça, de voir le conditionnement. Le conditionnement maintient les dispositions. Mais la vertu nous fait dépasser le milieu. Alors, est-ce que vous êtes capable de dépasser le milieu, d'avoir une tête au-dessus? C'est pour ça qu'on dira, quand un milieu sera trop fort, il conditionne, mais il ne fait pas acquérir des vertus. Puisqu'on se laisse porter par le milieu. Se laisser porter par le milieu, c'est très bien, mais on n'acquiert pas de vertus. Quand le noviciat est trop fort, trop, les écoutes sont trop visées, on acquiert des dispositions, c'est déjà pas si mal, et on n'acquiert pas de vertu. Vous voyez, tout ça, qui sont à préciser. Alors, l'obéissance, qu'est-ce que c'est? C'est une vertu. Tu vois, c'est un acte obéissant. L'acte d'obéissance, c'est un acte qui consiste à accepter l'impérium de celui qui a autorité sur moi et de considérer que cet impérium de celui qui a autorité sur moi va me permettre d'orienter ma vie. On reverra ça.
Thank you.
salut.